This call is now being recorded.
Alors maintenant que cet appel est enregistré, le podcast peut commencer. C'est le podcast numéro 90, bienvenue sur lebigstar.com. J'ai un invité, il est en Floride, je suis à Vegas, c'est Eric Péronard. Comment ça va Eric?
Eh ben ça va plutôt bien, au milieu de cette crise mondiale qui est vraiment un problème. Individuellement, on va pas se plaindre, ça va plutôt bien. Mais bon. On est bien conscient que c'est pas, qu'on est parmi les privilégiés. En Floride, c'est pas très dur par rapport à d'autres endroits aux États-Unis, et on en profite et on essaye de pas trop rafler.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste souhaiter la bienvenue aux non-abonnés lebigstar.com. Alors je recommence. Hein. Je vais souhaiter le bienvenue aux non-abonnés de lebigstar.com qui écoutent ce podcast. Voilà, j'ai réussi à le faire. Oulala, c'est dur là. Oulala. Donc, vous n'êtes pas abonné à lebigstar, vous avez accès à ce podcast. Vous n'êtes pas obligé d'écouter sur le site. Vous pouvez aussi aller sur Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Voilà, c'est juste une petite aparté avant de commencer. Je pense que c'est important parce que les gens qui connaissent pas le site, comme ça, ils peuvent savoir où ils peuvent écouter ce podcast, mais aussi tous les podcasts. Voilà, le vif du sujet, Eric, on parle beaucoup de Supercross, si ça reprend ou pas. Généralement, on s'appelle souvent pour vérifier nos sources. Qu'est-ce que tu as entendu de ton côté, toi?
Eh ben, contrairement à ce que je savais il y a une semaine, il y a a priori peut-être un virage à 180 degrés qui a été pris par rapport au timing. Et sérieusement, ils essayent, parce que je vais pas me prétendre à faire partie de la solution. Je conseille mes amis de Feld et autres quand ils me le demandent, mais ils essayent de caser cette fin de championnat de mi-mai à mi-juin avec dans l'Arizona comme tu l'as parlé. Donc ta source est bonne. Maintenant. Comme on m'a dit en anglais, c'est un long shot. Donc en français, c'est pas facile. Et tout le monde travaille dessus. Tous les angles sont étudiés. Il y a une proposition qui va être faite au parti officiel de l'Arizona. Aujourd'hui, on est en pleine étude de ce que représente un supercross, le minimum de personnes qui peuvent être impliquées, le minimum de les coureurs évidemment ne sont jamais mis en cause, mais est-ce qu'il y aura de la place pour les copines, les femmes, les familles, l'entourage, les médias comme toi, tout ça reste à décider. Et donc ça c'est vraiment le gros challenge que Feld a à établir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles de virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où on a dit tiens, on fera ça après l'outdoor en septembre-octobre et le fait que d'un coup on fait ça avant l'outdoor? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, je te mens pas, je le sais pas. Ça fait partie. Moi, j'ai passé une semaine la semaine dernière à être en contact avec plein de gens très importants dans le monde du sport américain, que ce soit moto ou autre. Et à mercredi dernier, ça paraissait pas envisageable. Maintenant, je pense que le relâchement souhaité du président Trump, qu'il a annoncé jeudi, vendredi, la semaine dernière, a mis le feu aux poudres. Je pense que c'est ça, personnellement. Je pense que le fait qu'il ait insisté sur le fait qu'il fallait que les activités sportives reprennent le plus tôt possible, ça a aidé des gens, principalement Feld, à envisager cet emploi du temps. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que même la télé, le vendredi matin, les gens de la télé n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Donc, on a tous appris un petit peu vendredi après-midi qu'il y avait une possibilité de retour en arrière par rapport à la date de mi-octobre à de mi-septembre à mi-octobre. Mais vraiment, vraiment une grosse surprise pour tout le monde, une très bonne surprise si ça pouvait se passer.
On va pas faire politique, mais comme tu dis, donc on avait écrit dans l'article aussi à propos de Trump, comme quoi il voulait ouvrir les États le plus vite possible. Mais bon, a priori, il est suivi pour l'instant par des gouverneurs républicains, quelqu'un en Arizona. Mais est-ce que tu trouves pas, alors encore une fois, là, je vais pas me lancer dans un politique ou dans un débat, mais est-ce que tu trouves pas que c'est un peu dangereux et c'est un peu trop tôt?
Absolument, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais bon, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas réelle photo par rapport à cette question-là. Néanmoins, si on peut nous convaincre et convaincre tout le monde, parce que c'est ça le problème, c'est que et la semaine dernière, c'est ce que j'avais déjà conclu. Il y a tellement de gens à convaincre et il y a tellement d'angles qui sont oubliés ou pas forcément mis en valeur que une opération comme ça, c'est vraiment très très compliqué. Tu vois, je viens de parler avec des gens de Feld et leur rappeler qu'il y avait des quarantaines qui avaient été établies dans plein d'États. Donc en fait, on peut même pas voyager très bien aux États-Unis aujourd'hui. On peut pas aller d'un État à l'autre comme on veut. Il y a pratiquement un État sur deux qui demande 2 semaines de quarantaine avant de pouvoir faire quelque chose.
Est-ce que tu sais ce qu'il est j'imagine, enfin j'en ai parlé aussi à droite à gauche, que la question revient souvent, est-ce que les pilotes ont été consultés et qu'est-ce qu'ils en pensent?
Les pilotes ont été consultés, certains, j'ai parlé avec 2-3 pilotes que je suis proche, il y en a qui ont été consultés, d'autres moins, c'est principalement les teams qui sont les plus importants. Il y a des demandes de pilotes, les demandes de pilotes on les connaît, hein, c'est pas d'autographe, ils veulent pas être en contact avec les fans, mais de toute façon il y aura pas de contact avec les fans. Ça c'est plus leur problème pour le possible outdoor national où on espère que d'ici la fin juin, il y aura peut-être un assouplissement des règles de social distancing, je te laisse traduire ça, je sais pas comment dire, de distance sociale.
La distance sociale, ouais, c'est ça.
Donc ils espèrent que d'ici fin juin ça ira mieux. Le groupe NX Sport est en train de monter un groupe de gens qui sont en train d'établir un protocole de fonctionnement, à savoir, je dis n'importe quoi pour que les gens comprennent, 200 personnes par hectare sur un circuit de cross, de pas pouvoir faire des interviews en direct, de séparer les gens de 2 mètres de partout, donc les gens de NX Sport sont eux en outdoor avec le national a beaucoup plus d'opportunités pour faire des choses bien parce que eux ils ont du temps et ils ont de la place. Les gens du Supercross, des gens un peu comme moi qui sont des spécialistes des sports dans les stades, là on a beaucoup moins d'opportunités. Mais encore une fois, avec un peu de chance et avec un petit peu de vent politique qui pourrait nous arranger, bien qu'on soit pas forcément toujours d'accord, ça pourrait aider le Supercross parce que c'est pas un sport qui est trop populaire. Et pourquoi pas un petit coup de pouce de l'État, disant ben tiens allez on va laisser le championnat se terminer dans un test en Arizona. Tout est possible. Aujourd'hui on est dans une situation où tout est possible.
Des courses t'en as organisé des dizaines, peut-être presque des centaines, non?
Au moins une centaine, c'est pas des centaines, mais au moins une centaine.
donc des courses, alors au moins organiser une centaine. Cette gestion de la crise, elle est forcément très difficile à gérer. Toi, t'es un peu extérieur parce que t'es pas tellement impliqué dans le Supercross, mais pour une course, pour toi, pour ta course, t'aurais fait quoi? Quelle aurait été tes décisions?
De toute façon, les décisions sont prises. C'est pas ma décision qui compte, c'est ce que l'on peut faire. Je pense que les efforts de Feld et les efforts de NX Sport sont bons. Ils vont dans la bonne direction. Maintenant, est-ce qu'ils vont plus vite que la musique? L'histoire nous le dira. Mais néanmoins, je pense que l'idée de faire le Supercross avant le national est très importante parce que les nationaux, à mon avis, vont être très très touchés si le Supercross n'est pas fait avant. Je pense qu'il y aura des teams, voire des pilotes, qui n'auront pas envie de risquer leur position au Supercross s'ils doivent aller faire les nationaux avant. Donc je pense que pour le sport, c'est bien mieux d'essayer de terminer le Supercross avant. De plus, si le Supercross Et comme on a parlé dans le premier plan à l'automne, pour caser du Supercross, ça va être vraiment très dur au niveau télé. Et ça, les patrons de NBC m'ont bien confirmé que ça va être un cauchemar. Il y aura tellement de choses à montrer, plus les deux sports numéro un américains, à savoir football et baseball, qui vont se retrouver. C'est un beau casse-tête. Hein. Et c'est pas mis en Europe. Hein. Je suis en contact avec tous les promoteurs là-bas et championnats du monde et tout ça. Et les problèmes sont les mêmes, multipliés par les pays différents. Donc on est dans une position où 2020, il va y avoir des dégâts. Et j'espère qu'on va réussir à les mitiger au maximum. Et plus que jamais, il faut bien que tout le monde comprenne qu'on est tous dans le même bateau. Et on peut pas partir dans son sens, dans son coin, essayer de faire quelque chose. Il faut vraiment qu'on bosse tous ensemble.
Concrètement, si le gouverneur de l'Arizona dit OK pour ça se passe à Glendale, comment tu vois concrètement que ça peut s'organiser? Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir le moins de gens possible dans et qu'ils soient le moins proches possible. Mais on est quand même sur un sport où t'as les pilotes, les mécanos, les médecins, ceux qui changent les pneus, etc. Les médias, comment tu l'imagines concrètement ces prochaines courses?
D'après ce que je sais, Feld a fait la demande à tous les teams de leur donner un nombre minimum de personnes qu'ils pourraient amener. Donc, en partant du principe que le mécanicien il va changer les pneus, par exemple, et que le pilote il vient sans son entourage. Et toutes ces choses-là. Donc, j'ai cru comprendre que cette demande avait déjà été faite. Que tous les teams avaient cette demande disant, voilà, le minimum de gens que vous pouvez amener à une course. Quand ils vont additionner tout ça, ce sera une première chose. J'ai cru comprendre également que le chiffre à ne pas excéder serait de l'ordre de 500 personnes. Par rapport à la taille du stade. Ouais, par rapport à la taille. Donc, quand on parle déjà de 80 pilotes, si on veut faire une course, donc 80 pilotes, 80 mécaniciens, les team managers et tout ça, on arrive tout de suite à 250 personnes qui sont vraiment minimum. Tu rajoutes une cinquantaine de personnes pour la télé et toutes ces choses-là, une dizaine de personnes pour la sécurité de la piste, les flaggers, et une dizaine de personnes pour l'équipe, t'arrives vite à 300-400. Peut-être que toi et moi, on a une chance d'être invités. Surtout toi. Autrement, je pense que je vais le regarder à la télé. Ce sera très bien comme ça. J'avais pensé sauter dans mon motorhome et aller à Glendale le mois prochain, mais je suis même pas sûr que je puisse y aller. Donc, j'ai pas envie de me retrouver coincé entre l'Arkansas et l'Oklahoma. Donc, on va voir ce qu'il en est.
Maintenant, je vais me faire l'avocat du diable. Ça fait un mois que ici on est en confinement, que l'État du Nevada ne veut pas sortir, tout est fermé. Toi, ça a commencé il y a pas longtemps en Floride. Pourquoi, dans 15 jours, j'irai mettre dans la gueule du loup et me mélanger à toutes ces personnes qui viennent de tous les quatre coins du pays?
Absolument. D'ailleurs, je pense que c'était ça ma conclusion il y a une semaine, après avoir discuté avec les responsables des sports américains. C'est non seulement il faut le faire marcher. Mais la question numéro un, c'est est-ce que vous allez venir? Est-ce que les gens vont venir si on pouvait même le rouvrir? Parce que l'idée de diviser les stades en deux ou trois, d'avoir deux sièges de libre entre chaque personne ou un siège, enfin bon, tout ça c'est des mathématiques, ça peut se gérer très facilement. Hein. Je veux dire, Ticketmaster, en trois minutes, ils peuvent te remplir un stade à moitié avec de la distance sociale, tout comme les stades de foot en France. Maintenant, la question, c'est est-ce que la moitié ou le tiers des gens qui vont venir vont eux-mêmes acheter? Et j'ai pu faire même, peut-être en étant l'avocat du diable aussi, parce que moi j'ai déjà dit à deux, trois de mes clients que ce serait pas facile d'avoir un Anaheim plein dans l'état actuel des choses. Et j'ai posé la question en disant, vous allez y aller à Anaheim? Ouais, on y va. J'ai dit, vous emmenez vos femmes, vos enfants. Et là, dans ce coup, silence. Donc, on se rend compte que des gens comme toi ou moi, on ira. On se mettra un masque. Toi, tu auras un masque Le Bug, moi, j'aurai un masque Fox, ou Red Bull. Mais est-ce qu'on veut emmener nos familles là-bas dedans? C'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, si c'est dans 15 jours, je pense que je te réponds non. dans 2 mois peut-être, et dans 6 mois, ben, on espère. Mais de toute façon, ça correspond à ta question. C'est est-ce qu'on a envie d'aller se mettre au milieu de ça quand sans testing, c'est vraiment la faiblesse du système américain aujourd'hui, sans testing, est-ce qu'on peut réellement se mettre avec 400-500 personnes, comme tu dis, qui viennent de tous les États, donc, dont des États qui sont hyper touchés, comme New York, New Jersey, il y a des médecins, il y a des gens qui changent des pneus, qui vivent dans l'État de New York et tout. Donc, ces gens-là, théoriquement, ne sont même pas autorisés à rentrer en Arizona.
Ah oui, ça va. Et tu parlais tout à l'heure de 80 pilotes, mais il faut pas rêver, t'as pas 80 pilotes qui vont décider de venir. Il y a des mecs qui vont, les top 10, ils vont être obligés de venir par leur contrat. Mais tout ce qui est pilote privé et tout, ils vont pas prendre de risques, ils vont pas dire je vais aller faire une course qui va rien me rapporter, je vais me mettre en danger parce que je vais peut-être être en contact avec d'autres gens. Il y a plein de choses qui sur papier sonnent bien, mais en réel vont peut-être pas, tu vois ce que je veux dire?
Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que on est déjà 5 jours de ce projet sans avoir aucun commentaire, parce que peu importe qui a lâché la fuite, le fait est, c'est que ce projet, il avait besoin d'une semaine de travail avant même qu'on puisse en parler. Et malheureusement, je pense que ça a été fait de façon inverse, où il y a eu fuite et le projet a été exposé aux médias. Donc tout le monde parle de ça maintenant, alors que réellement, il n'y avait pas besoin d'en parler trop au début. Ça fait partie. Ça nous occupe tous. Hein. Regarde, toi et moi, ça nous a pris une journée de... une heure de notre journée où on aurait peut-être pas fait grand chose d'autre, donc t'es toujours relativement positif, mais c'est comme un projet long shot, n'oublions pas ça.
tu penses que ça pourrait être imaginable qu'un des top pilotes dise, vous savez quoi, moi je veux pas le faire, est-ce qu'il pourrait vis-à-vis de ce contrat refuser de se mettre dans un stade là tout de suite là maintenant?
Je pense que oui. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, les contrats ne valent plus grand chose avec un cas de force majeure, comme on dit en anglais d'ailleurs, et le mot français, les deux mots français, avec un cas de force majeure comme on est en train de vivre. Je pense que de toute façon, tous les contrats peuvent être mis en question. Donc, il y a un pilote qui dit, moi, je me sens pas confortable d'aller rouler dans ces conditions-là aujourd'hui. Je pense qu'il a, mais par contre, je suis pas sûr qu'il sera payé non plus, hein. De toute façon, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit payé. Au mois d'avril, je pense que dans le monde de la moto, il y a pas grand monde qui est payé.
Ah ben, c'est-à-dire, ils sont pas mensualisés, ceux qui ont des grands contrats?
Si, ils sont tous mensualisés, mais il y a eu un moratorium, qui est un mot latin qui dit un arrêt. Un arrêt créé par une force majeure. Donc aujourd'hui, je veux dire 80, je pense un bon 90% des athlètes mondiaux de tous les sports ne sont pas payés aujourd'hui. Ils seront payés dès qu'on verra de la lumière dans le tunnel. Mais pour l'instant, on cherche toujours l'interrupteur. Donc on n'a pas encore trouvé la lumière. Il y a des gens qui croient l'avoir trouvé, mais c'est globalement, on va quand même dire on n'est pas encore sorti du tunnel.
Question toujours à l'organisateur que tu es. Donc on a entendu évidemment que, il y a des bruits qui courent, mais bon, que par exemple les 2,5 rouleraient le vendredi, les 4,5 rouleraient le samedi, 2 jours plus tard on changerait la piste, etc. Mais c'est un cauchemar dans la vie de tous les jours, ça, non?
Je pense pas, honnêtement, je ne pense pas que ce soit un cauchemar à organiser, parce que ça deviendra, il y aura un paquet de gens qui vont passer un mois dans l'Arizona à faire ça. moi, honnêtement, ça me fait pas peur. C'est-à-dire, si je devais me retrouver, on me dirait, on va faire ça. J'ai organisé des X-Games où on faisait, dans les belles années, où on faisait un changement de piste tous les jours. La nuit, on bossait, le lendemain, on faisait un autre événement, et on disait, et le surlendemain, on faisait la même chose pendant 4-5 jours. Bon, c'était 4-5 jours. Mais c'était un rythme de télé qu'il n'y aurait pas à faire, là. Il y aurait juste à pratiquement mettre tout dans la boîte. hein, dans la boîte télé, et puis après, est-ce qu'on est obligé d'avoir du live, ou ça peut être légèrement différé, toutes ces choses-là, est-ce qu'on roule le jour ou on roule la nuit? Ça, c'est pour diminuer les coûts, hein, parce que mettre tourner la lumière dans un sac, ça coûte quelques dollars. Hein.
Ah, donc il pourrait éventuellement rouler deux jours, c'est ça que tu veux dire?
Oui, 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 ça pourrait être deux jours, hein, ça pourrait être complètement deux jours. Bon, bah, la semaine dernière, tout était envisagé, mais on ne parlait pas du mois de mai. La semaine dernière, on parlait de, on va faire ça à San Bon, on va faire ça dans l'Arizona, on va faire ça dans le sud-ouest américain pour être tranquille qu'on n'ait pas de problème climatique, et pour être près des teams, on va faire du, comme tu disais, du vendredi soir, du lundi soir, un petit peu, partout où il y a des options télé. Ça avait déjà bien avancé le plan possible de septembre-octobre. Depuis vendredi, on est dans un autre plan qui est beaucoup mieux pour le sport si ça devait arriver, mais qui est aussi très ambitieux. Et je dis ambitieux avec un capitale, avec un A majuscule. C'est vraiment très ambitieux le projet de mai à Glendale.
Mm-hmm. Quand tu dis ambitieux, ça veut, si je lis entre lignes, ça veut dire aussi peut-être trop, donc trop. Ambitieux, mais
oui, c'est ambitieux parce qu'on essaye de pratiquement de relancer le sport américain au niveau national avec le championnat Supercross. Donc c'est clairement ambitieux. Aujourd'hui, tous les sports de haut niveau, tous les événements s'annulent et nous on essaye de se faire croire et peut-être de faire que le Supercross va finir son championnat. On ne peut qu'applaudir. Il faut surtout pas être négatif par rapport à ces efforts, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il n'y a jamais 100% de chance de victoire. Mais le fait est que l'approche que Emmett Sport a avec les sports, avec le motocross outdoor, et que Feld a avec le supercross, je dis bravo parce que c'est mieux que plein d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des alternatives comme ça dans d'autres sports encore.
Ouais, mais le danger, c'est que tout le monde ait les yeux braqués sur le supercross et qu'il faut pas se planter.
Ah ben, c'est sûr que de toute façon, la première épreuve, moi, je voudrais pas être le premier à faire une épreuve. J'ai travaillé ce matin avec KTM sur le projet Endurocross pour l'automne, pour faire le championnat. Les arénas vont être extrêmement difficiles à gérer. Parce que, bon, ben, les arénas, c'est tout petit, il y a 5 à 10 000 spectateurs, donc tout de suite, il faudrait couper le nombre de spectateurs de 50 de moitié ou de un tiers, donc ça devient plus rentable. On a parlé avec KTM des possibilités de faire ça dans un terrain ou de récupérer, puis au moins d'avoir la télé, de faire un championnat qui soit au moins télégénique et à ma grande surprise, un support total. En disant voilà, on a la première option, c'est ben on va suivre toutes les règles, peut-être de limiter les spectateurs, de limiter les contacts des pilotes en faisant ça, et on a déjà fait des plans. La deuxième option, c'est on oublie tout ce qui est côté spectateur et on va faire ça dans un champ en Californie pour être près des usines. Et la troisième option, on fait rien. Et KTM a dit non, il n'y a pas de troisième option. On fait quelque chose.
Maintenant, je, toujours pour Supercross, je continue de me faire l'avocat du diable. Mettons que la première course, elle est organisée. Tout le monde est testé, tout le monde est trié sur le volet, tout le monde est testé. Ça se passe bien, la première course se fait. La semaine d'après, c'est la deuxième course. Quelqu'un est testé positif au Covid-19. Et là, c'est la catastrophe. On est bien d'accord.
Mais bien sûr.
C'est
sûr que si, quelqu'un est là, je te suis complètement, je suis entièrement d'accord avec toi, mais le problème c'est, est-ce qu'on va pouvoir tester? Parce qu'il n'y a pas de test. Si c'était seulement, on peut dire que des Red Bull et des Monster et des gens qui ont, les compagnies qui ont les poches très profondes, si on disait, tu vas chez le pharmacien du coin et tu achètes 50 000 tests et c'est réglé, et je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui se battraient pour aller les acheter aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, De toute façon, sans test, sans, au moins on peut au moins essayer de prendre la température des gens. Au moins ça c'est possible. Et mais là, comme tu dis, Thomas qui arrive avec 39 de fièvre, on renvoie chez lui.
Oui, c'est la température, j'ai trouvé ça toujours idiot. Je veux dire, à partir du moment où tu vas quelque part et t'as 40 degrés de fièvre, déjà tu vas pas. Et t'as pas besoin de prendre la température pour voir que t'as de la fièvre, enfin, et que t'es malade. Donc ça m'a toujours un peu.
Mais non, mais j'ai jamais bien compris. C'est pas pour toi, c'est pour les autres.
Je comprends bien. Mais bon, oui, toi, si déjà t'as de la fièvre et tu transpires comme on transpire comme quoi. Tu transpires grave et t'arrives et tu vas quelque part. Déjà, en termes de responsabilité, t'es pas terrible. Hein. Reste chez toi. T'as rien à faire.
Ah ben bien sûr. Non, mais en fait, tu peux pas demander aux gens d'être intelligents. De toute façon, sur les 500 qui seront peut-être autorisés à aller à un supercross, il y aura forcément à un moment donné, quelqu'un qui va se retrouver en contact avec quelqu'un. Et il faut
comment
juste
espérer. Comment on peut faire
que...
autrement, Eric? Il faudrait qu'on soit tous dans le même hôtel, il faudrait qu'on fasse tous la même chose, qu'on aille tous dans les mêmes endroits et qu'on se retrouve le lendemain dans le stade au même moment. Je veux dire, c'est quand même des grosses contraintes, non?
Oui, je pense que c'est plus important, d'après ce que j'en ai conclu, parce que moi j'ai parlé avec des gens qui faisaient du football, c'était les entraîneurs et tout ça. Il faut mettre les gars en paire. Et tu, en gros, tu as des teams, tu as le pilote, son mécanicien. Alors ça, c'est, okay. Il faut que les deux ils puissent être toujours ensemble. Et après, tu as différentes layers, des épaisseurs de prise de risque. Les mecs en football, ils m'ont tout expliqué, mais j'ai pas tout compris. Le football, c'est pas ma spécialité. Mais en football, c'était ça. Il y avait un groupe de l'entraîneur, le joueur, et en gros, il y avait que le entraîneur en chef qui pouvait se déplacer dans les vestiaires où les mecs auraient été bien séparés pour parler à chacun individuellement en étant bien protégé, si tu veux. Mais après, à partir du moment où ils sont sur la piste ou dans le stade, il y a un phénomène de risque que tu ne peux pas dire. Les mecs vont tomber dessus sur la gueule. Maintenant, bon, ils ont des casques, ils ont des les casques, ça filtre rien, hein. Mais au moins, on est un peu, je veux dire qu'on peut éternuer dans son casque sans balancer le virus à tout le monde.
Mmh. Ça reste pas.
Je te donne pas mon opinion. Je te dis les faits. Donc ouais. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Je veux dire, il y a pas de, on est sur la même longueur d'onde. Hein.
Parce que maintenant, au point de vue de l'image que ça renvoie, t'as quand même des États qui galèrent. Il y a quand même des morts, des dizaines de milliers de morts. Bien sûr. Ça s'arrête pas. Et nous, dans 15 jours, on dirait en Arizona, vous savez quoi, peu importe ce qui se passe ailleurs, nous on va tenter un truc. Au point de vue de l'image que ça renvoie, c'est quand même pas terrible, non?
Ouais, c'est encore une fois, c'est l'histoire, enfin le jugement. Je partage ton opinion que c'est pas terrible. C'est ce que le sport aurait besoin de ça, mais en même temps, si ça foire, le sport n'a pas besoin de ça.
Bon, maintenant, je peux aussi arrêter de me faire l'avocat du diable et de pas voir ce côté négatif et dire, faut bien qu'on recommence un jour, faut bien qu'on sorte de chez nous, faut bien que ça recommence, faut bien que ça reprenne. Faut bien que ça reprenne. Donc, pourquoi pas le faire là maintenant?
C'est ce qui va se passer. Moi, j'avoue que ce plan-là, à mi-juin, me plairait beaucoup plus, personnellement. Mais si tu fais ça à mi-juin, tu rentres dans la chasse gardée des motocross outdoor. Donc là, c'est pas facile non plus. Là, on rentre dans la politique. Et malheureusement, comme toujours, comme j'ai dit à un ami hier du milieu, dont je ne dirai pas le nom, j'ai l'impression qu'on a un petit peu les mêmes problèmes dans notre bulle moto que dans notre bulle américaine. On est en train de se rendre compte des faiblesses du système. Et le système américain... de santé et tout ça est en train de montrer que c'est pas terrible et le système du motocross supercross avec chacun qui essaye de faire les choses de son côté, c'est pas terrible non plus. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on réalise tous, que ce soit l'Amérique, que ce soit la moto, qu'on est tous dans un bateau et qu'il faut tous parler le même langage. Et là je crois qu'on et d'ailleurs on le voit, tu vois, c'est ce qu'on disait, le président Trump, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, il fait un gros meeting mercredi dernier avec les leaders du sport américain, et d'un seul coup, le jeudi, vendredi, on nous dit que c'est peut-être possible d'avoir un supercross. C'est la politique est de partout, hein.
Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est juste une impression, mais j'ai l'impression que Feld et Mick Sport, donc l'organisateur du Blood Door US, ont jamais été aussi proches. Et je me trompe ou pas?
Je pense qu'ils n'ont jamais été aussi proches. Se dire qu'ils soient proches, je suis pas encore sûr de ça. Mais ils n'ont jamais été aussi proches, au moins des 10 dernières années.
Parce que l'idée, comme tu dis, c'est que ça chevauche pas et qu'il y ait vraiment un outdoor. On avait parlé d'un début en outdoor au 13 juin, maintenant on est plus sur le 20. Est-ce que tu crois que, justement, ça va se décider à partir du moment où le Supercross se décide?
Le pecking order, comme on dit en anglais, l'ordre par rapport à la taille, clairement, Supercross devrait être le premier. Je pense que le Supercross, c'est ce que les gens veulent. Il y a plus de demandes pour le Supercross que pour le national. Mais ça, c'est une réalité. C'est pas nouveau. C'est comme ça depuis 20 ans, hein. Mais je pense que ce serait mieux pour le national que le Supercross avant. Parce que moi, j'ai peur que des teams et des pilotes qui ont Supercross à jouer n'aient pas envie d'aller prendre des risques aux nationaux, pour parler correctement, au motocross, en se disant, j'ai un type de Supercross à jouer, je ne vais pas aller faire le con à Red Bud ou à Fox Raceway. C'est pas mon truc. Et voire même les teams leur disant ça.
Ouais. Mais en même temps, il y a quand même des terrains de motocross qui vont jouer leur survie cet été, non?
Ah bah oui. Oui, complètement. Certains. Mais les bons, les meilleurs des États-Unis, comme les Red Bud ou les Millville, c'est des gens solides. Il n'y a pas de souci, ils sont en business, ils ont payé leur terrain, hein, il est à eux, de famille en famille. Je me fais pas trop de soucis, je pense qu'ils peuvent passer une mauvaise année si c'était le cas. Les gars qui sont un peu plus justes, ah, ça va être plus difficile, c'est clair. Mais quand tu regardes un petit peu tous les circuits qu'il y a, et que tu connais un petit peu comme tu les connais très bien tous individuellement, je pense que à 90%, ils pourraient survivre une année sans leur national.
C'est aussi difficile pour les gens qui nous écoutent. Les gens qui nous écoutent, c'est un peu difficile pour eux de comprendre de loin, parce que la France est en confinement, mais réellement en confinement, ils peuvent pas sortir. Hein. Il faut une autorisation etc. Nous, c'est pas le cas aux États-Unis, et c'est vrai que c'est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe ici et d'expliquer aux gens que ici ça roule encore, les pilotes. Même s'ils vont pas sur le terrain public, mais ils continuent à rouler sur le terrain privé, ils continuent à s'entraîner. C'est difficile de faire la part des choses entre les deux continents, hein.
Oui, absolument. Alors que, une chose que les gens, ça m'étonne toujours des nouvelles qu'ils n'ont pas réussi à assimiler ça. Quand tu additionnes tous les gros pays d'Europe, France, Allemagne, Angleterre, on est exactement au même chiffre qu'aux États-Unis. Donc si tu additionnes l'Europe, le nombre de cas, le nombre de décès, tout ça, et ben c'est très très similaire. Mais on parle malheureusement toujours individuellement. On est toujours là, oui, en France si, en Allemagne si, et tout ça. Mais regarde les chiffres, tu verras que l'Europe se compare aux États-Unis. Alors il y a un petit peu moins de monde au kilomètre carré aux États-Unis qu'en Europe, parce qu'on a quand même un petit peu plus de place. Mais c'est vrai que je crois que c'est ça qui fait que les choses sont différentes. C'est le fait que nous avons plus de place aux États-Unis. Je pense que ça ralentit le virus, parce qu'il est pas aussi bon voyageur qu'en Italie ou il peut l'être à New York. Il correspond bien à une échelle européenne.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que le virus n'a pas de couleur. Démocrate ou républicain, un État qui ouvre et l'autre qui ferme à côté, je veux dire, le virus, il s'en fout. Hein. Je veux dire, ça va passer de l'un à l'autre. Et j'ai peur qu'il y ait des répercussions d'États qui font attention justement à garder ce confinement, et puis un autre État à côté qui dit nous, on verra bien, et finalement tout le monde ne va pas dans la même direction. C'est un peu ça le danger, non?
Ben, ça, c'est ce que je te disais, c'est la faiblesse américaine, hein, de toute façon. Mm-hmm. Là, on est bien exposé par rapport à la faiblesse américaine, tout comme on est bien exposé à la faiblesse du monde de la moto, qui part un peu dans tous les sens. Tu sais, en Europe, pour te dire un minimum, le championnat du monde de motocross et le championnat du monde de vitesse, c'est pas géré de la même façon non plus. C'est leurs deux championnats, et la vision n'est pas la même dans les deux cas. Donc Dorna et Infront, ils n'ont pas exactement la même vision du futur que tout comme Nixport et Feld n'ont pas exactement la même vision non plus.
Mm-hmm. Tu as travaillé chez Feld, tu étais vice-président chez Feld, donc tu les connais bien, tu sais bien comment ils fonctionnent. Si aujourd'hui c'était toi responsable du Supercross US, tu ferais quoi?
Ah, je pense que je
forcerais. C'est la question plus... à $1 million, ça. Hein.
Ouais, c'est sûr. Je pense que je creuserais 4 opportunités. J'irais pas dire non avant d'avoir tous les éléments sur la table. Okay. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que si on me disait, peut-être sur la Lune, à la fin du mois de juin, on peut se faire 4 courses. Je dirais, amenez-moi le projet de la Lune et on va voir ce qu'il en est. Après, la décision à prendre, elle est d'abord humaine, après le sport et après économique, si tu veux. Et à la fin de la journée, comme tu l'as si bien dit il y a 10 minutes, de toute façon, à la fin de la journée, il y a plus des grands garçons. C'est-à-dire que si toi, tu sens que c'était pas un truc bien maîtrisé. D'ailleurs, on me l'a dit plusieurs fois, les team managers, les grands patrons des écuries m'ont dit, nous, on veut pas aller à un truc où on a l'impression qu'on se fout de notre gueule au niveau sécurité. Donc, ils ont vraiment besoin de mettre un plan, si tu veux. Il faut que le plan, il soit clair. Et pas du style, bon, ok, il y a 500 mecs qui viennent à Glendale, Arizona, et on va se débrouiller. Ça, je pense que le « on va se débrouiller », il faut surtout pas que ça fasse partie du plan.
Ce qu'on peut quand même donner à Feld, c'est que dans cette histoire, ils essayent pas de sauver leur peau parce qu'ils vont rien gagner financièrement dans cette histoire. Ils vont que dépenser, non? Ils vont pas.
Oui, mais
il n'y aura pas de.
Oui,
alors, est-ce que je me trompe?
Ouais, tu te trompes à moitié. Un, il y aura les coûts de production seront certainement extrêmement réduits. J'imagine qu'un Glendale ou autre endroit qui sélectionne fera, à mon avis, un super bonne affaire pour le bien du sport, parce que ça les apporte, ce sera bon pour le sport à un moment. Si tout doit bien se passer, ce sera bon pour le sport. Mais la grosse chose qui est en jeu, c'est les sponsors. Et Feld a 3 sources de revenus. Ils sont dans l'ordre. Les spectateurs, 2 les sponsors, 3 la télé. Et il y a vraiment un gros gap entre les 3. Donc aujourd'hui, spectateur, c'est réglé, hein, ça va pas se faire comme ça.
Non.
Je pense qu'il faut accepter le fait que 2020, c'est pas une année pour les spectateurs dans les 3-4 prochains mois qui viennent. On espère toujours qu'il y aura peut-être des solutions de compromis pour l'automne, mais en tout cas pour printemps, été, spectateurs, c'est pas bon. Et ce qui reste, c'est qu'aujourd'hui, Feld, ils ont livré 50% de leur produits Supercross et ils ont une énorme somme en jeu au niveau sponsor. Et je pense que s'ils livrent les sept courses qui manquent, ils sont dans une position d'être payés par leurs sponsors, les Monsters et autres Fly, tous les gens qui leur donnent beaucoup d'argent. Alors que sans les courses, alors ils vont peut-être dépenser 1 million pour en rentrer 5, si tu veux, pour dire des chiffres qui servent à rien. Mais c'est ça, je veux dire, la réalité, il y a quand même du positif pour leur business.
D'accord. Donc ils sont pas philanthropes. Là je me trompe complètement.
Non. Il y a quand même des intérêts de business. Non, c'est pas de la philanthropie à ce niveau-là. Et je pense que tous les contrats, si j'avais fait un contrat avec Feld, pour Fox ou autre, que je leur dirais, c'est bien d'avoir les courses, mais on a aussi besoin d'avoir nos 30, 40 000 spectateurs à chaque course où on peut leur parler et tout ça. Donc, dans tous les cas, il y a un demi-mal, mais ça devrait, si les courses passent, je pense que ça évitera à Feld d'être sur le toit, parce que c'est pas ce qu'on leur souhaite non plus, hein,
non, bien sûr que non.
je sais pas ce que tu fais l'année prochaine, mais qu'on peut organiser les Supercross. On a bien organisé l'US Open ensemble il y a 20 ans à Vegas, on peut remonter, hein.
Donc, imaginons le pire, Eric. Imaginons le pire. Il n'y a rien qui va. Glendale, ça le fait pas. Il y a eu des cas de coronavirus la veille du début de la course. Et tout ce qui a été mis en place par Feld disparaît en mai et juin. On en parlait déjà que septembre et octobre, ce serait déjà quand même vachement difficile. Est-ce que tu imagines une seule seconde que le championnat pourra s'arrêter là, avec les points, avec les plaques rouges d'aujourd'hui?
Alors, c'est la question que j'avais posée à la FIM tout de suite après Daytona, et ils m'ont répondu positivement. Oui, on peut le championnat, les règles,
techniquement,
on peut donner. Voilà, on peut donner le titre à Tomac. C'est possible.
D'accord.
Donc, mais personne n'en veut, y compris Tomac, d'après ce que j'ai compris.
Oui. En même temps, il n'a pas le choix. Si on lui donne, il va le prendre.
Oui, personne ne veut un titre qui soit teinté, comme on dit en anglais.
Ah, mais est-ce que les titres ne sont pas teintés d'une année sur l'autre, entre un qui est blessé, l'autre qui n'est pas venu
Non, mais c'est sûr, je veux dire. Donc, il veut le battre. Donc, ça, c'est une ultime possibilité qui a déjà été dit, oui. On peut faire ça, mais ça n'a pas eu beaucoup de, ça n'a pas intéressé grand monde et je sais pas, peut-être que si ça continue pendant 2 mois, ben les mecs ils vont dire, moi je peux te dire qu'il y a des grosses boîtes qui organisent des championnats et qui se posent la question s'il faut pas adopter la technique Jeux Olympiques, hein, qui sont, on est désolé, mais en vain on peut rien faire de bien de toute façon dans l'état des choses. Donc, on passe à 21. Ce serait pas drôle pour personne, mais c'est aussi une option, c'est une option D. Il y a A, B, C, D. C'est l'option D, c'est d'aller dire, bon ben, on peut rien faire qui tienne la route en 2020, donc on passe à 2021. Et on passe, et on demande à tous nos partenaires de passer avec eux. C'est un peu ce qui est, au niveau du basket, c'est un peu ce qu'ils disaient aussi, hein, tu vois, ils disaient, on sait pas quoi faire, donc, qu'est-ce qu'on fait? On transfère tout, on prend une année. Alors, évidemment, dans des sports comme ça, où les gens sont tous des milliardaires, c'est pas très dur. Mais nous, dans le sport, c'est pas facile.
Je voudrais juste expliquer, pour les gens qui comprennent pas, qui connaissent pas très bien le système, pourquoi tu disais tout à l'heure que septembre et octobre, ça serait difficile pour le Supercross, revenir sur les championnats de baseball et etc. Pourquoi? Parce que, en résumé, tout le monde irait dans les mêmes stades, c'est ça, hein?
Non, c'est surtout au niveau télé. C'est trouver, la télé, c'est de l'inventaire, hein. Il y a 24 heures par jour, 7 jours.
C'est plus côté télé que côté concret, les stades, alors.
Oui, parce que, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'on trouvera toujours un endroit dans lequel on peut faire une course. Il y a une semaine, on aurait fait cette interview il y a une semaine, je t'aurais dit, on peut toujours trouver un endroit pour faire une course. Ça peut être dans le parking du César Palace, je veux dire, et qu'on amène la terre, on fait le circuit, on fait un truc à la Red Bull, comme je fais avec le Spectre Freedom, et terminé. Et puis on garde le parking, parce qu'aujourd'hui, dans les mois qui viennent, il va y avoir un petit peu de la dépression, hein. Il va y avoir tous les parkings vont pas être pleins, on parlait même des grands prix comme j'avais pu faire avec à Charlotte. Tu vois, où on se retrouve dans un circuit de NASCAR qui ne sert plus à grand chose. On fait Daytona à Pomona, hein, je veux dire, comment ça s'appelle, le circuit qui est à Los Angeles. Et là, tu gardes tout, tu as tous les câbles, ils sont là pour la télé, tu n'as pas besoin d'amener de générateur, tu n'as pas besoin d'amener lumière, et tu fais tes courses. Ça, c'était un plan qui peut-être reviendra. Aujourd'hui, c'est le plan B, ça. Mais le plan A, ce serait de faire ce Glendale. Mais là, il y a une semaine, le plan B, c'est le plan A. Voilà. Donc, il y a 6 jours, le plan B, c'est clairement trouver un endroit. Et moi, personnellement, j'ai recommandé Sam Boyd depuis le début. Parce que Sam Boyd va être détruit au mois de juin pour construire des maisons et tout ça. Parce que je suis pas sûr que Vegas va avoir besoin de plus de maisons avec ce qui arrive. Non, mais il faut être réaliste, hein. Ça va pas accélérer la croissance de Vegas, ou d'ailleurs, hein, c'est pas méchant par rapport à ma ville d'adoption qui est la tienne maintenant. Mais, Non, non, mais c'est vrai, hein. Donc il faut bien comprendre tout ça et à partir une fois que tu as construit un circuit de supercross, je veux dire, et que tu modifies les pistes et tout ça, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est la terre et l'amener et la ramener. C'est là que l'argent disparaît. La construction de la piste, c'est 25 000 $ à chaque course. Et si tu te refais la même piste, que tu changes les bosses et tout ça, c'était 10 000 $ à chaque course. C'est ridicule. On a vraiment aucun problème par rapport à ça.
D'accord. Et donc tu disais, pour finir sur la télé, là, que c'est les créneaux télé qui sont difficiles à trouver en septembre et octobre. C'est pour ça que c'est compliqué.
Ces saisons baseball et football qui sont à plein, forcément les bons créneaux ne sont pas disponibles. Les bons créneaux sont donnés au gros, et en fait on se retrouve avec un championnat qui va se retrouver passer à la télé le mardi soir à 4 h de l'après-midi sur la côte est, tu vois. Donc c'est pas terrible tout ça par rapport à notre show le samedi soir en direct.
Mmh. Bon, maintenant, il y a pas une solution d'Internet aussi. Les gens peuvent regarder sur Internet.
Absolument, mais là, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment. Ça n'a pas l'air d'avoir bien des collègues dans certains pays du monde.
D'accord, ok.
Mais encore une fois, je veux dire, moi, je te parle d'un truc tout con. Il y a 2 mois de ça, j'avais toujours refusé de faire des conférences call avec caméra et tout ça, et maintenant, j'en fais 2 par jour. Donc on est tous, il faut savoir s'adapter à la situation du temps. Hein.
Est-ce que justement en parlant de s'adapter, est-ce que tu penses que en 2020 dans les stades on aura un siège sur deux? Est-ce qu'on pourra dire ça, ce qu'on a vécu avant, ça n'existera plus?
Moi, de la conclusion de mes discussions avec des gens au plus haut niveau de la semaine dernière, c'est que de toute façon, tant qu'on n'aurait pas un vaccin, il y aurait des conséquences. Donc les conséquences que les gens acceptaient le mieux en parlant à des patrons de ligue de foot ou quoi que ce soit, c'était social distancing dans les sièges, en disant que de toute façon on n'est pas vraiment toujours plein, hormis le Super Bowl, tu vois, ça il y a clairement du manque à gagner, et en partant en principe bête que s'il y a moins de place à vendre, on les vendra plus cher.
L'Amérique.
J'ai souri quand j'ai entendu ça. C'est tellement américain.
Les avions, ça va être pareil. Hein. Les avions, ça va être exactement pareil. Hein. Il y aura moins de sièges, les billets coûteront plus cher.
Oui, bon, il y a une réalité économique là-dedans. Tu peux pas non plus l'éviter. Hein.
Bien sûr.
Donc, dans mes rêves de foot, tu disais, on fait une course avec Red Bull, on fait un truc de folie avec 1 000 personnes qui payent 1 000 $ par personne, et ça, t'arrives à faire fonctionner la course. Et je suis sûr qu'il y a 1 000 personnes aux États-Unis prêtes à payer 1 000 $ pour être à une course unique. Mais bon, c'est pas forcément le système, c'est pas forcément la bonne idée. Et puis, pour moi, être opportuniste, c'est avoir des bonnes idées au bon moment et non pas profiter du système, parce qu'il y a deux types d'opportunistes. Il y a les opportunistes de merde et ceux qui voient seulement une bonne idée au milieu de tout ça.
Mmh. On a beaucoup parlé de Feld. Je voudrais parler un peu plus de toi, Eric. T'as des courses, il y a des courses à organiser dans les mois à venir.
Vraiment.
Personnellement, t'es un peu comme tout le monde. Ton business est à l'arrêt. Ça doit être.
Ah oui, oui. Mais vraiment à l'arrêt. J'aurais dû être en Chine au premier trimestre de l'année pour préparer les X Games et tout ça. Donc ça s'est vite réglé. J'ai même pas eu le temps d'acheter mes billets d'avion. C'était déjà annulé. Je devais être quasiment en route pour Hawaï pour le Supercross qui devrait être à la fin du mois. Après il y avait des qualifs, on sait même pas si on avait les X Games. Là aujourd'hui, mon premier événement possible qui n'a pas encore été annulé, c'est les X Games à mi-juillet.
D'accord.
Voilà où j'en suis. Et après, le Straight Rhythm, c'était très inquiet, mais peut-être que ça, c'est une des choses qui pourrait être bien, c'est que le Straight Reserve et la Monster Cup dans lequel je suis impliqué, si jamais le Supercross se passait au mois de mai-juin, ça pourrait réouvrir les opportunités de faire ça. Maintenant, aux dernières nouvelles, le maire de Los Angeles interdisait tout événement jusqu'à la fin de l'année dans le comté de Los Angeles où on fait le Straight Reserve et la Monster Cup.
D'accord, bon ça c'est réglé.
Donc ça les glace. Et après il nous reste les courses, Montréal c'est réglé aussi puisque le stade est en train de s'effondrer, donc lui il n'avait pas besoin du coronavirus pour en régler là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il nous reste toutes nos courses européennes qui, je pense, sont assez loin pour qu'on puisse garder espoir. Voilà,
c'est ce que je veux dire. D'accord, donc on parle de Paris et Genève.
Paris et Genève sont dans une tranche de l'année où on peut pas jeter l'éponge aujourd'hui. On peut y croire. Avec un peu de chance avec nous, un plateau des trucs. Je pourrais pas avoir la même discussion en septembre, hein, mais si on était à la même situation qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut être, raisonnablement optimiste pour notre saison européenne. Je parlais avec les Australiens, ils sont pareils. Alors, on est quand même à 4 mois du début de ces choses-là, hein. Donc, 4 mois, ça paraît loin. Mais bon, dans cette merde, on ne sait pas trop où on va.
Les courses européennes, donc je parle de Paris et Genève, c'est quoi ton deadline quand tu dis à un moment, on ne fait pas ou on le fait? Tu peux organiser une course jusqu'à quand?
Alors déjà, bon, ces courses, moi je suis l'organisateur sportif avec Xavier à Paris et avec Stéphanie à Genève. C'est moi qui suis en contact avec les pilotes et tout ça, mais je te rassure, il n'y a pas grand monde qui me pose beaucoup de questions, hein, par rapport à ces courses-là aujourd'hui. Tant qu'on n'aura pas recommencé à courir aux US, je pense qu'on ne se posera pas de questions. Mais maintenant, un truc qui peut nous aider, un truc qu'il faut être aussi conscient, c'est est-ce que les gouvernements vont pas nous emmerder à mettre des frontières, des restrictions à voyager, toutes ces choses-là. Je veux pas faire l'avocat du diable, parce qu'il n'y a pas besoin de diable en ce moment, hein. Mais il faut tout se remettre en ordre, hein. C'est pas gagné. Par contre, je pense encore une fois que novembre et décembre, on peut encore y croire.
Ok. Les nations. Donc, à Hermé.
Oula, les nations à Hermé. Ça, je pense que c'est. Je crois que la France a arrêté jusqu'à fin juillet ou fin août. J'ai entendu dire les événements sportifs ou les événements tout court.
Ah, je saurais pas te dire.
Ouais. Je crois avoir lu que Macron avait dit pas d'événement France jusqu'à l'automne.
Mm-hmm.
Ça reste une histoire de grand garçon. C'est est-ce que les gens, les promoteurs, les teams sont prêts à prendre le risque? J'ai eu cette discussion très honnête avec un de mes amis qui est un des promoteurs du championnat américain de motocross en lui disant voilà. Est-ce que tu as gagné de l'argent de l'année dernière? Est-ce que tu penses gagner plus d'argent si tu as le droit de faire la course cette année? Et la décision, c'est toi qui la prends. Je veux dire, il n'y a personne qui doit te dire, personne doit imposer à un motoclub ou autre d'aller perdre 500 000 euros parce que c'est à chacun doit prendre sa décision, même titre que toi, tu prends ta décision pour aller à Glendale si jamais ça doit se passer et que moi aussi, et si tu veux pas y aller, ben tu m'enverras ta place et puis j'irai pas non plus. Voilà.
non, pour tout dire, même si je peux pas y aller, je vais y aller, pour tout dire. Parce qu'il y aura certainement une liste de médias à trier sur le volet et j'irai quand même sur le parking, de toute façon. Je rentrerai pas si je peux pas, mais il faut que je sois dans le cœur de l'événement, il faut que j'y sois. Maintenant, j'espère que à partir du moment où il y aura une liste et puis qu'ils prendront un média français par course, peut-être que je serai dedans, vu qu'on est quand même pas nombreux à suivre. Il y a que le Big qui suit le Supercross US dans sa totalité d'ailleurs.
Normal. Tu sais qu'en IndyCar, ils ont retourné tout le monde. Ils n'ont pas laissé les médias. Il y avait un IndyCar il y a 3 semaines. C'est la dernière course qui s'est passée une semaine après Daytona. Il y avait le IndyCar à Saint-Pétersbourg en Floride et tout le monde, il y a eu que les pilotes et les mécanos qui sont entrés sur la piste. si tu veux, parce que la télé était là et tout ça. Ouais. Et notre ami Jimmy Button, qui est un agent de très haut niveau, eh ben il a fait aller-retour. Il est sorti de l'avion et il a reçu le texte en disant que son pass ne l'autoriserait pas à rentrer. Et en montant dans l'avion, on est rentré en Californie.
Ok. Ouais, bon, mais je sais pas, encore une fois, on n'en est pas là, mais on verra ce que je déciderai à ce moment-là. Mais j'espère quand même pouvoir y être invité. On verra. On n'est pas là.
Ouais, exactement.
Je voudrais quand même finir sur une note positive, Eric. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de positif sur tout ça?
Bah, ce qu'on pourrait dire de positif, c'est que déjà, on est en pleine forme, toi et moi, hein. C'est déjà, et que nos familles aussi.
Ils sont contents de nous voir.
Bah, limite, je crois qu'on est en train d'arriver au bout du rouleau en disant, c'est tout ce qu'on va passer, là. Vous êtes là encore un week-end.
Est-ce que t'as profité de faire des choses que t'avais jamais eu le temps de faire, par exemple?
Dis-moi. Ah bah, dis-moi. Bien sûr, j'ai fait 14 fois de la moto au mois de mars, et j'en suis la 7e fois au mois d'avril. J'ai acheté un petit bateau. Là, dès que j'ai fini, je vais faire les tours de la baie avec mon fiston, lui apprendre à faire du bateau, et en apprenant la même chose, je lui fais croire que je sais, mais en fait, je sais rien. Quand je dis petit bateau, c'est 5 mètres, hein. C'est pas un truc, c'est un canoë à moteur, hein. Mais ça fait 20 ans que je suis en Floride, j'avais jamais acheté un bateau, parce que j'avais jamais eu le temps d'y penser, l'enfer. Et ben, à ce coup, je me suis dit, quand ils nous ont annoncé le confinement, je suis parti à Orlando, et le premier bateau qui m'a plu, je l'ai accroché derrière la bagnole, et je l'ai ramené à la maison, en me disant, bah, tiens, on pourra au moins faire du bateau, parce que, comme on vit au bord de l'eau, on peut balancer dans l'eau sans avoir de problème. Donc, personne n'allait venir nous en aller. Donc non, c'est positif, c'est que bon, je veux dire que il y a beaucoup de gens. Je veux pas nommer tous les gens de l'industrie à qui j'ai parlé, mais des gens qui me disent, putain, mais c'est quand même agréable de dormir dans son lit tous les week-ends. C'est tout. Donc on a tous un petit peu découvert à un moment donné, c'est un arrêt forcé qui est ironiquement très triste par rapport à ce que c'est la raison, mais il y a quand même pas mal de gens qui disent que ça fait du bien de souffler. Il n'y a plus de pollution. La pollution a disparu quasiment. Il paraît, mais je ne suis pas dans un endroit pollué, mais surtout toi qui es à Vegas dans une grande ville, est-ce que tu peux le constater?
Est-ce que, en même temps, quand il va falloir repartir, on va pas traîner des pieds, tu crois? Non, on va être content d'y aller quand même. Hein.
On va être content d'y aller, mais il faut qu'on y aille et qu'on se sente en confiance. Ça, c'est le problème. Ouais. On va traîner des pieds si on se sent pas. Ouais. Et ça va être une bonne conclusion de tout ce qu'on a dit. Il faut qu'on y aille en confiance. Faut qu'on aille à la prochaine course ou à toutes les courses qui viennent en disant, on va pas se prendre un virus dans la gueule.
Je vais pas annoncer le truc, mais j'ai quand même une question. Est-ce que tu crois que Feld va s'y tenir?
À quoi?
À faire cette course et que tout le monde soit, il n'y a pas le côté business qui va revenir, le côté américain. On n'est pas sûr, mais on va le faire quand même parce qu'il faut qu'on sauve notre peau.
Bah, je pense que la responsabilité civile d'une opération comme ça, Kenneth Feld, que j'ai eu le plaisir de rencontrer nous deux fois, et qu'on s'est fait connaître sa fille, c'est pas des idiots. Je veux dire que le risque de faire un truc comme ça, aujourd'hui, il y a malheureusement 100 000 avocats aux États-Unis qui sont en train de se délecter de tout l'argent qu'ils vont pouvoir gagner par rapport à toutes les conneries qui vont être faites. Et je pense qu'il n'y a personne, tu vois, hier, j'étais encore sous choc, où on m'a dit que cette crise mettait carrément en question le cirque du soleil. Tu te rends compte, le cirque du soleil, quelqu'un du cirque du soleil m'a dit qu'il pensait qu'ils n'allaient pas se relever de l'opération.
Ils vont être en banqueroute, ils vont être en faillite bientôt.
Voilà. Ouais. Il paraît que ça n'allait pas très fort déjà. Mm-hmm. Mais il faut quand même être lucide, on a besoin de gens pour organiser nos événements. Et les promoteurs sont pas tous des mauvais garçons. Je pense que je fais confiance à Feld pour la big picture. Ils vont pas faire n'importe quoi. J'espère ne pas me tromper. Voilà. Allez.
D'accord. Allez, arrête, dernière question.
Arrête le diable.
Dernière question. Dernière question sportive. Si ça reprend, est-ce que tu crois que Thomas peut gagner le titre cette fois? Et en 2,5, Dylan Ferrandis et Sexton. C'est quoi ton pronostic?
Je pense que Tomac est le patron avec un petit peu d'avance sur Roxen, qui est un petit peu moins agressif que lui, mais ça peut se transformer en positif. Et Tomac craint personne sauf lui-même. Mm-hmm. Donc je pense que on se connaît bien, hein, puisqu'il est tout petit, c'est un teigneux.
Mais il va être papa. Mais il va être papa, attention.
Ouais, ça c'est... Ça change plein de choses. pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pour Thomas Coroxen, dans tous les cas, c'est deux beaux champions, hein, il y en a un qui... Les deux le méritent. On peut pas dire qu'ils ont pas, donné, hein. Ça c'est... pour Dylan, je pense que c'est clairement le patron. De son côté, donc je veux dire, pour moi il n'y a pas de doute que Dylan doit être champion. Maintenant après les championnats c'est autre chose, mais je pense que c'est clairement le meilleur. En côte est, Sexton oui, mais on n'a pas vu grand chose, hein, de la côte est, donc difficile de faire une. Je pense que Sexton est bon et qu'il a eu un peu de chance déjà. Et voilà, je veux dire, après, bon, la chance, ça fait partie d'un champion. Hein.
Exactement. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Ça tombe bien, c'est une belle transition parce que je vais raccrocher puis je vais appeler Chess Sexton pour l'interview FaceTime. Donc, que vous allez pouvoir écouter, regarder cet après-midi sur le Big parce que le podcast est mis en ligne le matin et vous aurez l'interview de Chess Sexton cet après-midi. Voilà, tu vois, c'est une belle transition, hein, qu'est-ce que t'en penses?
Ah, c'est magnifique.
Bon, bah. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce podcast 90, Eric. Merci beaucoup de ton temps. Donc, tu vas faire du bateau, alors c'est parti.
Ouais, allez, on va faire un petit coup de bateau avec sur la baie de Nusfernabik. Notre ami Soumira, okay. Il est parti dimanche. Il nous montrera
ouais,
bien.
Soumira, c'est rentré. Ouais,
Soumira, c'est rentré. On a passé un bon moment avec son hôte Yannick Coquard et tout, ça a été, je pense qu'il a passé un super bon moment en Floride, un peu compliqué parce que rien n'est simple en ce moment, mais c'était, je pense qu'il a bien apprécié son séjour et au plaisir de le revoir. Voilà.
Ben moi, au plaisir de te voir, c'est à Glendale.
Absolument. Et tous les deux, on est sur la liste, c'est que c'est plutôt bon.
Au moins, donc on pourra faire notre paire, on pourra être en paire, on pourra faire notre binôme alors.
Voilà, à deux mètres. Hein. Moi, je suis bien. Là, c'est fini. Hein. À partir d'aujourd'hui, c'est moi, je fais comme les Japonais. Hein. Je mets les mains et je fais une petite penchette sur l'avant. Voilà.
Voilà. Ben, en tout cas, je t'embrasse dans le téléphone. On risque rien.
Moi aussi. Virtuel.
À bientôt. Merci.
Allez,
merci
à tous les écus.
Ciao.
Allez, fans de Lubig USA, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.
Alors là, je confirme. Merci à tous d'avoir écouté le podcast et d'être fidèles au site. À ciao.
Ciao.